Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. On n'avait pas vu l'extrême droite au Portugal depuis la chute de la dictature de Salazar en 1974, mais en 2019, le chef du parti populiste Chega, André Ventura, a obtenu un siège au Parlement et le voilà aujourd'hui candidat pour les présidentielles, dont le deuxième tour se tient ce dimanche. Avec 8% d'intention de vote, il n'effraie pour l'instant personne, mais son programme inquiète, et notamment son insistance à faire de la communauté tzigane un bouc émissaire idéal. Reportage au Portugal, signé Marilyn Darcy.
Au cri de fasciste et raciste, la communauté tzigane et les habitants de Serpa, au sud du Portugal, avaient réservé un accueil musclé au candidat André Ventura.
Nous protestons pour la liberté. Nous ne voulons pas la dictature, mais la démocratie. Ce type veut faire une révolution au Portugal, mais nous ne sommes plus autant d'Hitler. On veut la liberté pour le Portugal.
André Ventura a pris les tziganes du Portugal pour cible. Il les considère comme des parasites, vivant au crochet de la société, gros bénéficiaire du RSI, le revenu social minimum. Des arguments qui choquent Sonia Matos. À 45 ans, cette médiatrice pour la communauté tzigane à Seychelles, en banlieue sud de Lisbonne, s'efforce de garder son calme.
C'est un homme qui aime monter les gens les uns contre les autres et il désigne une communauté car c'est très facile pour lui. Ce sont des gens peu organisés qui ne savent pas se défendre. Il ne fait pas ça avec la communauté africaine parce qu'elle possède les moyens de se défendre. Les tziganes, eux, n'en sont pas là, même si on avance progressivement.
Sonia Matos est envahie d'un véritable sentiment d'injustice.
Moi, je suis fière d'être portugaise, mais je suis triste, oui, triste de voir qu'il y a des gens qui pensent comme ce monsieur. Pour moi, c'est juste un type qui dit ce que certaines personnes veulent entendre. C'est un populiste et son unique objectif, c'est de ramasser des voix. Il est tout le temps dans la contradiction car il dit juste ce qui lui passe par la tête.
André Ventura est un phénomène récent sur la scène politique portugaise. Son parti, le Chega, ce qui veut dire « assez », a été créé en 2019 pour les élections législatives. Et Ventura en est devenu l'unique député à l'Assemblée nationale. Pour le politologue Pedro Adão e Silva de l'Institut des sciences sociales de Lisbonne, rien de surprenant avec le Chega.
Ce qui se produit au Portugal avec un léger retard, c'est ce qui s'est passé dans toutes les démocraties libérales européennes, à savoir l'avènement et l'ascension de forces et de protagonistes de nature populiste, anti-système et dont le discours repose sur les mêmes thèmes, le racisme, la défiance envers l'État, envers la politique, contre la corruption. C'est identique.
Ana Gomes est candidate à la présidentielle, sans étiquette. Socialiste, humaniste convaincue, la diplomate de carrière est l'antithèse d'André Ventura. Au point que ce dernier en a fait la candidate des tziganes. Elle dénonce un programme dangereux.
L'ultra-droite au Portugal use de tous les arguments. Elle en est arrivée à réclamer le confinement forcé de la communauté tzigane. C'est intolérable. Ça commence par les tziganes et on sait bien ce que ça veut dire dans l'histoire. Et juste derrière, ce sont les immigrés. Encore plus incroyable, nous qui sommes un pays d'émigrés. On n'admettrait pas que nos concitoyens contraints à l'émigration soient traités de manière inhumaine, comme l'ultra-droite le fait ici avec les étrangers.
La sociologue Manuela Mendes, spécialiste des questions tziganes, considère que le discours politique de rejet de ces communautés repose sur une discrimination historique.
En ce qui concerne ce parti, le Chega, à l'extrême droite, il se sert des tziganes comme d'un bouc émissaire. Ça se passe partout en Europe. Ce monsieur, André Ventura, utilise certaines couches de la société portugaise déçues des partis traditionnels, comme des cobayes. Ces populations défavorisées sont des victimes désignées.
Obrigado, Silvia Marques, pelo feedback. Beijinhos, querida.
Bouc émissaire en politique, les tziganes sont encore plus vulnérables économiquement en raison de la crise Covid. Manuela Mendes, sociologue.
Le pourcentage de tziganes qui reçoit le RSI est faible, aux alentours de 4% du total de ce revenu social. Les tziganes, dans la réalité, ont une très grande capacité de résilience. Ils ont perdu leur principale source de revenus avec la suspension des foires et certaines sont fermées définitivement. Parfois, seuls les marchés alimentaires sont autorisés, mais ce n'est pas leur activité. Alors, ils se sont mis à la vente sur les réseaux sociaux.
Un sens de l'adaptation confirmé après 500 ans de de présence sur le sol portugais, les tziganes éternels ostracisés, victimes de la vindicte populiste et extrémiste, devront à nouveau faire preuve de résilience. André Ventura, quant à lui, vise la place de second à la présidentielle du 24 janvier.
Il y aura bientôt des élections en février au Parlement catalan et pour la première fois, le parti d'extrême droite Vox pourrait y faire son entrée. La formation qui a obtenu 24 sièges sur 350 au Parlement espagnol l'an dernier a fait de la défense de l'Espagne et de la lutte contre l'indépendantisme catalan son fer de lance. À Barcelone, Élise Gazangel.
Le parti d'extrême droite Vox utilise la défense de ce qu'ils appellent les valeurs ibériques pour se frayer un chemin aux politiques. Et leur ennemi juré de la patrie est tout trouvé depuis 2017, le catalan indépendantiste qui veut se séparer de l'Espagne. Il faut dire que le parti n'a obtenu de représentation politique dans le pays qu'en 2018, aux élections régionales andalouses, quelques mois après le référendum catalan. Vox a d'ailleurs tout misé sur cette crise catalane. Lors du procès aux leaders indépendantistes, le parti s'était même constitué partie civile, ce qui a accru sa notoriété publique. Et depuis, l'extrême droite est entrée au Parlement espagnol avec 10% des voix, 24 députés sur 350. Dans leur meeting, le ton est donné. La chanson « Viva España » est entonnée la main sur le cœur. Leur slogan « Pour l'Espagne » hurlé point levé. Et les couleurs rouge et jaune sont omniprésentes sur les t-shirts, montre ou encore désormais masque en tissu. Évidemment, ce nationalisme espagnol exacerbé par la blessure patriotique catalane sert d'accroche à Vox pour défendre un programme traditionnel et autoritaire commun aux ultra-droites européennes contre l'avortement, l'euthanasie, le mariage homosexuel, le féminisme ou encore le multiculturalisme. Le président du parti, Santiago Abascal, s'illustre même dans des spots électoraux à cheval, menant la reconquista du pays contre ses ennemis de l'Espagne. Jusqu'alors, ce discours ne semblait pas vraiment séduire les Basques et les Catalans, mais une surprise pourrait surgir des urnes lors du prochain scrutin.
I'm full of admiration for the courageous way the Hungarian people have resisted the deceptions and corruption of the mafia state that Orban has established.
Un bouc émissaire, voilà le grand dénominateur commun à tous les partis d'extrême droite en Europe et d'ailleurs. George Soros, financier américain, juif d'origine hongroise, en est l'exemple parfait. En quelques années, il est devenu une cible idéale pour tous les souverainistes. On l'accuse de tous les maux et surtout de favoriser l'immigration. Le premier ministre populiste hongrois, Viktor Orban, a créé de toutes pièces cet ennemi monstrueux avec l'aide de conseillers américains. Florence Labrouillard nous explique les dessous de cette machination très politique.
George Soros, le milliardaire philanthrope, s'est implanté dans sa Hongrie natale dès 1984. Il y a investi 400 millions de dollars dans l'éducation, la santé et l'assistance aux réfugiés. En 2015, au moment de la crise migratoire, le milliardaire américain appelle l'Europe à accueillir les réfugiés. Une aubaine pour le premier ministre populiste Viktor Orban, qui va faire de Soros un bouc émissaire. Orban lance une grande campagne d'affichage, en gros plan, le visage de George Soros, hilar, avec cette phrase « rira bien qui rira le dernier ». Cette photo rappelle l'imagerie utilisée par les nazis dans les années 30 pour représenter le juif qui ricane et tire les ficelles en coulisses. Une campagne conçue par un conseiller américain, George Birnbaum, lui-même disciple du grand gourou de la communication aux États-Unis, Arthur Finkelstein. Pour gagner les élections, selon Finkelstein, qui a conseillé le parti républicain, il faut souder ses électeurs avec des messages négatifs. Rien de tel que la haine pour cimenter un électorat. Viktor Orban a fait du trumpisme avant Trump. Il a appliqué la méthode Finkelstein en menant des campagnes contre les SDF, Bruxelles, les migrants et contre George Soros. Si les conseillers américains ont choisi Soros comme cible, c'est parce qu'il est inconnu de la majorité des Hongrois. L'ennemi idéal est celui qu'on ne connaît pas vraiment. Et puis Soros est très riche et d'origine juive, ce qui permet d'attiser l'antisémitisme latent en Hongrie. La campagne a été très efficace. Lors des élections de 2018, la plupart des électeurs de droite citaient George Soros comme étant le principal danger menaçant la Hongrie.
Et c'est l'heure de découvrir Courrier International cette semaine. Bonjour Ingrid Terwatt.
Bonjour Frédéric Lebel.
Ingrid, à l'heure où les frontières se ferment et où la mobilité est souvent limitée, vous nous embarquez dans un voyage dans quelques lieux un peu insolites et surtout marquants dans l'actualité européenne de cette semaine. Première escale la plus lointaine, l'Arctique. Mais que vient faire l'Europe là-dedans et pourquoi on en parle en ce moment?
Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Conseil de l'Arctique. Bon, c'est un genre de proto-gouvernement où siègent notamment 6 organisations de peuples autochtones, mais aussi 3 pays membres de l'Union, le Danemark, la Finlande et la Suède, ainsi que la Norvège et l'Islande. Ajoutons à cela, parmi les observateurs, encore 7 pays européens, dont la France. Mais voyez-vous, aujourd'hui, voilà que Bruxelles entend aussi siéger dans cette instance. Alors, la chercheuse russe Ekaterina Labetskaya explique dans les colonnes du journal Nezavissimaya Gazeta que pour y parvenir, l'UE a lancé une grande consultation sur l'Arctique, a fait beaucoup de communication et a nommé un nouvel ambassadeur de l'Arctique, un certain Michael Mann, en avril dernier. Oui, mais voilà, ça risque de coincer, parce que les fonctionnaires européens sont perçus comme hautains et que Bruxelles interdit le commerce des dérivés du phoque, produit d'exportation traditionnelle des populations indigènes de la région. Par ailleurs, la Russie, qui est membre du Conseil de l'Arctique, menacerait de bloquer la candidature européenne en représailles aux sanctions imposées pour l'annexion de la Crimée et la situation dans l'est de l'Ukraine, selon le fameux Michael Mann. Bon, tout cela pourrait sembler n'être que des bisbilles diplomatiques un peu mineures, mais il en va tout de même de la lutte contre le changement climatique, la protection de l'environnement et le développement durable. Autant vous dire que nous n'avons pas tout à fait fini d'entendre parler de l'Arctique.
Alors je crois, Ingrid, que vous voulez maintenant nous emmener dans le port de Hoek van Holland, qui a fait beaucoup parler de lui récemment.
Oui, on change de cap. Hoek van Holland est une ville portuaire des Pays-Bas où s'est déroulée une scène très frappante filmée par la chaîne de télévision néerlandaise NPO1. On y voit un routier fraîchement arrivé du Royaume-Uni se faire saisir les sandwichs qu'il transportait par les douaniers néerlandais qui lui lancent « Bienvenue dans le Brexit ». Eh oui, Frédéric, depuis le 1er janvier, les aliments d'origine animale comme la viande et les produits laitiers ne peuvent plus entrer librement dans l'Union européenne depuis le Royaume-Uni, y compris donc les sandwichs maison emballés dans du papier alu. Seule exception, le lait pour bébé et certaines formes de nourriture pour animaux. Alors, outre-Manche, ces images sont devenues virales. Le Daily Express, un tabloïd britannique, franchement très eurosceptique, peste évidemment. Le Daily Mail parle de, je le cite, « zèle pathétique ». Mais, toujours plus dans la mesure, la BBC, elle, répond et rappelle qu'il s'agit d'une conséquence logique de l'accord signé entre Londres et Bruxelles. Conséquence logique qu'on voit déjà dans les rayons de nombreuses enseignes britanniques comme Marks & Spencer, où les rayons sont vides un peu partout en Europe, y compris en France.
On continue notre voyage avec vous, Ingrid. Cap sur l'Allemagne maintenant, et plus précisément la campagne du Brandebourg, où Elon Musk fait parler de lui. Elon Musk, le milliardaire patron de la société Tesla, qui fabrique des voitures électriques. Vous nous racontez, Ingrid.
C'est le Guardian qui nous livre un reportage saisissant sur la Gigafactory, ou Giga-usine Tesla, qui est en train de sortir de terre dans la petite bourgade de Grüneheide, dans le Land de Brandebourg, au sud-est de Berlin. C'est le plus grand chantier d'Allemagne et la plus grosse implantation industrielle dans la région depuis un siècle. Les bâtiments poussent à vitesse grand V. Oui, et selon le Guardian, Elon Musk a choisi une voie justement très peu conforme aux méthodes allemandes, c'est-à-dire les travaux d'abord, les permis ensuite. Alors, d'un côté, les autorités locales et même le Parti des Verts se réjouissent de la création de 10 000 emplois d'une part et de la production de 500 000 voitures électriques d'autre part. Tout de même, il y a certaines dents qui grincent, chez d'autres écologistes notamment. Pourquoi ? Eh bien, c'est simple. 100 hectares de pins, soit la surface de près de 26 terrains de foot, ont déjà été rasés. Et 86 autres hectares subiront probablement le même sort, conformément à une décision de justice rendue en décembre, note le Guardian. En plus de la déforestation, certaines espèces de lézards et de serpents seraient menacées. Elon Musk est censé verser un acompte de 100 millions d'euros pour les éventuels frais de restauration écologique à l'Agence de l'environnement du Brandebourg. Mais il a déposé un recours pour retarder le paiement. Et malgré de nombreuses, très nombreuses procédures légales, les travaux de construction de l'usine, continuent.
Et pour terminer, on change radicalement de sujet. On part maintenant pour notre terminus, la très huppée station de sport d'hiver suisse Saint-Moritz. Que se passe-t-il donc chez nos voisins helvètes, Ingrid ?
Frédéric, Saint-Moritz n'est pas une ville qui fait beaucoup parler d'elle d'habitude. À vrai dire, elle mise plutôt sur la discrétion. Oui, sauf que maintenant, elle est devenue le refuge des super, super riches qui fuient les contraintes imposées par la pandémie pour profiter de l'air pur, de la liberté et surtout de leur fortune dans des palaces locaux. Le magazine allemand Der Spiegel note que les hôtels de luxe font justement, ça tombe bien, des tarifs préférentiels. Alors attention Frédéric, tenez-vous bien, on parle tout de même de 51 360 euros pour 4 mois. Et oui, je devance votre question, à ce prix-là, le petit déjeuner est compris. Tout cela est à vrai dire d'autant plus choquant que la Suisse dénombre plus de 7 900 morts liées au coronavirus. Selon le Spiegel, l'indifférence générale qui règne en Suisse et l'indulgence pour les resquilleurs sont dues au lobby de l'économie qui s'activerait en coulisses. Et donc, alors que presque tous les lits en soins intensifs sont occupés dans les grisons, dans le très huppé Saint-Moritz, on est toujours les rois du monde façon Titanic, note le magazine allemand. Et c'est donc avec un naufrage que nous achevons notre curieux voyage en Europe, Frédéric, en espérant la prochaine fois des informations un peu plus joyeuses.
Merci pour ce beau voyage, Ingrid. Des articles à lire dans Courrier International avec en une cette semaine un dossier sur les réseaux sociaux qui font la loi. À bientôt.
À bientôt, Frédéric.
Music. Et on retrouve Vincent Théval pour nous parler de la sortie musique de la semaine. Bonjour Vincent.
Bonjour Frédéric.
Et vous nous présentez aujourd'hui un album de la mixité signé Stracho Temelkovski.
Musicien français issu d'une famille originaire de Macédoine, le multi-instrumentiste Stracho Temelkovski multiplie depuis plus de 15 ans les projets et collaborations où il jette des ponts entre le jazz, les musiques du monde et l'improvisation. Paru à l'automne dernier, son premier album The Sound Braca se situe au carrefour de ces territoires. On y entend des sons des Balkans, de Méditerranée ou d'Orient, amenés par une dizaine de musiciens d'horizons très différents. Stracho Temelkovski y assure la basse, les guitares, quelques percussions et même du beatbox, comme sur le titre que je vous propose, Saudade des Bomettes, qui est le fruit d'un atelier en milieu carcéral, une improvisation construite lors d'un échange avec une détenue originaire du Cap-Vert.
C'est sur cette Saudade des Bomettes que se termine Accent d'Europe. Portez-vous bien, bon week-end, à lundi.